Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un culte riche en émotions. J'espère que l'émotion va pas trop me submerger, que je vais pas trop balbutier. Mais c'est ainsi. On a aujourd'hui notre culte mensuel qui traite du thème de l'année. Quelqu'un se souvient du thème de l'année? Le? Ah, vous faites les faux timides. Le témoignage. Extrait de l'évangile selon Luc au chapitre 24 au verset 48. C'est Jésus qui dit à ses disciples: vous en êtes témoins. Vous en êtes témoins. Je n'avais pas pu être là à la prédication sur le thème de l'année du mois précédent, mais je me suis empressé d'écouter sur internet la prédication de Peter. Et j'ai vu, selon son style habituel, très piquant, le style anglais, que Peter a illustré le témoignage comme... Désolé si je résume mal ta prédication, mais j'ai retenu l'image du véhicule. On relâche le frein, quelqu'un s'en souvient? On embraye, et ensuite, on accélère. Peter avait dit que... S'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas de quoi alimenter le moteur, on a beau accélérer, on risque fort de stagner. Et j'avais compris que la puissance du témoignage, la puissance qui permet aux chrétiens de témoigner, c'est le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Actes chapitre 1 au verset 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et bien plus loin encore, jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, le texte qu'il m'est donné de partager avec vous est très connu, c'est celui du don de l'Esprit à la Pentecôte. On fera donc une lecture suivie dans ce livre des Actes. Et aujourd'hui, on lit Actes 2, verset 1 à 41. Actes 2, verset 1 à 41. Je lis dans la version du Semeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, c'est-à-dire de petites flammes, des petites langues de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'entre eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant chacun d'entre nous, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule: « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce grand jour glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait, en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort retienne captif, que la mort le retienne captif, pardon. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. » Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel. Mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez !» ou dans d'autres versions, « Repentez-vous !» Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Amen. Grand jour de la Pentecôte. Jésus avait effectivement promis à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem, attendez et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. La fête de la Pentecôte, on le lit en Lévitique, dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, au chapitre 23, est une fête qu'on célèbre à l'occasion des moissons. Des moissons ou des récoltes. C'était le moment où, après avoir semé et bien travaillé la terre, on pouvait profiter du fruit du travail et remercier Dieu pour les fruits de la terre. Il y a dans cette histoire comme une récolte bien différente. Jésus profite de cette fête de moissons pour commencer sa moisson à lui. Il avait dit à Pierre et aux apôtres, vous serez des pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin de cette histoire? 3000 personnes qui rejoignent le camp, le groupe des croyants. Voici le jour du début de la récolte du peuple de Dieu. Amen. Et cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu rassemble son peuple. Ce Saint-Esprit est bien l'acteur majeur de l'histoire qu'on a lue. C'est lui qu'il fallait attendre. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui impulse. On voit que la descente du Saint-Esprit est accompagnée de phénomènes extraordinaires. Du vent, un vent violent, du bruit, et les gens accourent. Je note qu'au début, les disciples semblent réunis dans une maison. Ils sont assis. Et tout d'un coup, avec ce bruit, ce vent, ah, ils sortent et les gens accourent. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit que le Saint-Esprit descend sur chacun des disciples, des apôtres, sous la forme de langue de feu. Le symbole de la langue, le symbole du feu. Ils étaient là, assis dans cette maison, attendant ce que Jésus avait promis. Certainement, ils se sont posés bien des questions. Qu'allons-nous pouvoir faire? Qu'allons-nous pouvoir dire? Notre Seigneur a été rejeté par le peuple et mis à mort. Maintenant, il est monté au ciel. Certes, il a promis quelque chose. Et nous voici dans l'attente. J'imagine qu'ils ont pu être quand même un peu troublés, un peu inquiets. Et le Saint-Esprit qui descend comme un feu, ce symbole du feu, c'est pour rallumer en eux le zèle, rallumer en eux la flamme. Le Saint-Esprit est celui qui nous enflamme. Il rallume dans les disciples le zèle. Il y a quelque chose qui brûle. Et voilà qu'il nous a dit qu'il commence à proclamer des merveilles de Dieu dans toutes les langues pour que tout le monde entende les choses merveilleuses que Dieu a faites. Voilà l'action du feu. Ne nous y trompons pas. Le feu du Saint-Esprit n'est pas un feu qui consume. Ça vous fait penser à quelque chose? L'épisode du buisson ardent. Moïse voit un buisson qui brûle, il y a du feu. Bizarrement, ça ne se consume pas. Ah! Il se rapproche. Phénomène extraordinaire. Et c'est là que Dieu se révèle à Moïse. Ce feu de l'esprit est un feu qui purifie. Comme le feu purifie les métaux les plus durs, il purifie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, Dieu, par son esprit, produit en nous le vouloir et le faire. Les disciples, les apôtres étaient assis. Et au verset 14, il est dit, Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte s'adresse à la foule. Quel courage! Quel contraste avec le même Pierre qui, au moment où Jésus allait se faire tuer, l'a renié non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois. c'est le même Pierre aujourd'hui qui va devant cette foule qui a tué Jésus, proclamer que ce Jésus est Seigneur. Quelle transformation! C'est ça, le feu de l'Esprit qui transforme, qui relève l'être brisé, qui redresse celui qui plie, qui console véritablement ceux qui sont découragés. C'est ça le feu. Et si le Saint-Esprit descend sous forme de langue, c'est parce que le Saint-Esprit a un travail particulier à faire. Il parle. Le Saint-Esprit est une personne qui parle. J'en veux pour preuve l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Jean chapitre 15, donc quelques pages avant le texte qu'on lit aujourd'hui, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Jean chapitre 15, versets 26-27. « Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Si vous comprenez comme moi, je comprends que ce Saint-Esprit va parler, n'est-ce pas? Il va lui-même rendre un témoignage de Jésus. Et ensuite, Jésus nous dit au verset 27, « Et vous, à votre tour, à la suite du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. » Si le Saint-Esprit descend sur les apôtres sous forme de langue, c'est parce qu'avant de les conduire à ouvrir la bouche et proclamer un message que nous allons voir, il faut que le Saint-Esprit parle en eux pour les convaincre de quelque chose. Pour qu'eux-mêmes, ils soient affermis, fortifiés, convaincus. Pour qu'ils entendent véritablement et qu'ils croient. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à dire? Il descend sous forme de langue. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'on entend à la Pentecôte? Quel est le message central? Avant d'en venir au message central,